Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Politiques et citoyens dans la rue pour dénoncer d'une même voix hier soir l'antisémitisme en France. Des milliers de personnes se sont rassemblées un peu partout dans le pays. Emmanuel Macron a lui promis des actes et des lois.
Alexandre Benalla, envoyé en prison après la révocation de son contrôle judiciaire.
Un juge lui reproche d'avoir rencontré son ami Vincent Crase, lui aussi mis en examen dans l'enquête sur les violences du 1er mai dernier à Paris. À la une encore, la mort du couturier Karl Lagerfeld et la visite hier de la première ministre écossaise Nicola Sturgeon. Elle était à Paris pour évoquer la cause de l'Écosse à l'heure du Brexit.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, États-Unis, pourquoi invoquer l'état d'urgence ? On posera la question à Jean-Éric Brana. Il est maître de conférence à l'université Paris 2.
Comment lutter durablement contre l'antisémitisme ? La question se pose encore ce matin, après que des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir à Lille, Paris, Bordeaux, Toulouse, Limoges, Saint-Étienne ou encore à Metz pour dénoncer la hausse des actes antisémites. Emmanuel Macron a promis hier des actes et des lois. C'était lors d'un déplacement à Quatzenheim, dans le Bas-Rhin, où près d'une centaine de tombes ont été profanées dans la nuit de lundi à mardi. Des tombes juives, le reportage de Lucille Guy de France Bleu Alsace.
C'est pas le visage de votre village.
Non, vraiment pas.
C'est celui de la bêtise.
Emmanuel Macron rassure les habitants de Quatzenheim, abasourdi. C'est la première fois que le cimetière juif est profané. Le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, Maurice Dahan, n'en peut plus. Ce silence devient trop pesant à ses yeux.
Je parle de cette omerta qui existe dans toute l'Alsace du Nord, que je stigmatise volontairement maintenant. Parce que c'est pas possible qu'on tague partout en Alsace. Des croix gammées partout, des salles juives partout, et que personne n'ait jamais rien entendu, personne n'ait jamais rien vu, et que personne n'ait même entendu un de ces voyous, peureux, pas courageux, s'exprimer autour d'une bière dans un petit bistrot pour raconter ce qu'il a fait comme connerie. Je pense que maintenant il est temps que les gens ouvrent leur bouche et disent ce qu'ils entendent.
Les élus l'écoutent. Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, lui assure tout son soutien.
Il y a un peu de trouble en France, les rats sortent, quoi. Voilà, et c'est terrible.
Je rajouterai juste ce qu'a dit récemment le fils de Simone Veil. Quand la France ne va pas bien, elle commence par s'en prendre à ses juifs et j'espère qu'on va très vite pallier au problème.
Je crois qu'il faut surtout faire de cette lutte une vraie cause nationale. Il faut que le président de la République le comprenne et en tout cas que nous les politiques, on élève la voix encore plus.
Emmanuel Macron l'a dit à Quatzenheim, l'État prendra des lois pour punir les auteurs de tels actes.
Et en attendant une traduction judiciaire, politiques et citoyens se sont donc rassemblés par milliers hier un peu partout en France avec un mot d'ordre, l'antisémitisme, ça suffit. Au moins 20 000 personnes hier soir, place de la République à Paris, la moitié du gouvernement emmené par Édouard Philippe, mais aussi François Hollande et Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, Benoît Hamon, Olivier Faure qui avec le Parti Socialiste avait appelé à ce rassemblement, suivi donc par de nombreux citoyens, Maxime Fayol.
Dans la foule compacte, de nombreux panneaux sont brandis. Sur celui de Juliette, il est écrit « Non à l'antisémitisme ». Elle a fait le déplacement depuis les Ardennes.
C'est important de défendre l'humanité dans sa globalité. Et quand on attaque spécialement les Juifs parce qu'ils sont Juifs, eh bien on veut attaquer en fait toute l'humanité dans toute sa diversité. Il faut se mettre en groupe pour dire non, parce que quand on laisse faire, eh bien on sait vers quelle pente glissante on va.
Au pied de la statue, Dominique a collé une étoile jaune sur son cœur. Dessus, elle a dessiné un sourire. Son grand-oncle est mort dans un camp de concentration, alors elle est venue pour prôner le vivre ensemble.
Il faut absolument qu'on construise. Et pour construire, il faut y aller tous. Il ne faut pas seulement casser, ni crier, il faut qu'on s'aime.
L'amour qui n'a pas été toujours présent au sein du cortège hier, il y a eu beaucoup de discussions houleuses et même quelques insultes à l'égard de Gérard qui porte un t-shirt de la France insoumise et une pancarte.
On n'arrête pas de me dire « Quoi, vous êtes insoumis ?» Mais c'est une honte, vous ne vous rendez pas compte. Ce panneau qui est là, c'est moins le bruit des bottes qu'il nous faut craindre aujourd'hui que le silence des pantoufles. Donc nous sommes un certain nombre à ne pas nous taire. Et je suis juif, c'est vrai. Je suis français et de gauche et je l'écris.
J'ai été au Parti Socialiste. J'ai jeté ma carte, je l'ai déchirée, ma carte.
On en est arrivé là avec la gauche. Vous avez raison, monsieur. Soyez d'extrême droite.
En fin de manifestation, des collégiens ont lu des textes histoire d'adoucir un peu l'atmosphère d'un rassemblement qui s'est conclu par une Marseillaise.
Maxime Fayolle, place de la République hier soir à Paris, un rassemblement sans Marine Le Pen, dont le parti a finalement été invité au dernier moment par le PS. Mais la présidente du Rassemblement National a préféré se rendre au cimetière de Bagneux dans les Hauts-de-Seine, devant la plaque commémorative d'Ilan Halimi, torturé et tué en 2006 parce que juif. Alexandre Benalla a passé la nuit à la prison de la Santé. L'ex-chargé de mission de l'Élysée a été placé en détention provisoire hier soir, tout comme son ami, l'ancien gendarme Vincent Crase, employé par La République En Marche. Un juge reproche aux deux hommes de ne pas avoir respecté leur contrôle judiciaire dans l'enquête sur les violences du 1er mai dernier à Paris, qui leur vaut d'être mis en examen. Alexandre Benalla et Vincent Crase se retrouvent donc derrière les barreaux, près d'un mois après la publication par Mediapart d'enregistrements clandestins entre les deux hommes. Les précisions d'Anne-Laure Bouzige.
Alexandre Benalla a dormi dans la prison fraîchement rénovée de la Santé. Depuis la réouverture de la prison parisienne début janvier, le quartier VIP n'existe plus. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a donc dormi dans le quartier dit des personnes vulnérables où ne se côtoient pas uniquement des voyous en col blanc. Les magistrats ont donc estimé hier que les deux hommes n'avaient pas respecté leur contrôle judiciaire en se retrouvant le 26 juillet dernier, soit 4 jours après leur mise en examen dans l'affaire des violences du 1er mai et alors qu'ils avaient interdiction d'entrer en contact. C'est Mediapart qui a dévoilé fin janvier les enregistrements sonores de cette rencontre où il est question notamment de faire disparaître d'éventuelles preuves. Mais pour l'avocate d'Alexandre Benalla, Jacqueline Lafont, tout cela est ridicule. Il n'y a pas de justification à cette révocation du contrôle judiciaire. Elle a déposé un référé liberté pour tenter d'obtenir une remise en liberté rapide d'Alexandre Benalla.
L'affaire Benalla côté Sénat, la commission des lois présente aujourd'hui son rapport d'enquête sur celui qui est soupçonné d'avoir menti sous serment. Le rapport des sénateurs devrait être sévère sur les dysfonctionnements dans les services de l'État qui ont pu émailler cette affaire Benalla. Lors du jugement pour le géant bancaire suisse UBS, accusé d'avoir organisé en France une fraude fiscale massive entre 2004 et 2012, le tribunal correctionnel de Paris rend sa décision cet après-midi, alors que le parquet national financier a requis lui une amende record de 3,7 milliards d'euros. L'instruction obligatoire des 3 ans, des missions d'enseignement confiées à certains surveillants, mais aussi des drapeaux dans les classes et une reconnaissance de l'homoparentalité dans les formulaires scolaires. Après une semaine de débats souvent vifs, l'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture le projet de loi sur l'école de la confiance du ministre Jean-Michel Blanquer. 353 voix pour, 171 contre pour ce texte qui a crispé l'opposition et certains syndicats d'enseignants.
7h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Allez, une devinette, Catherine, qui a dit cela? Le monde perd un géant. Karl était beaucoup plus que notre plus grand styliste et le plus prolifique. Son génie créatif était stupéfiant.
C'est Anna Wintour, la rédactrice en chef du magazine Vogue aux États-Unis, qui est l'une des personnalités à rendre hommage donc à Karl Lagerfeld, icône de la mode, emblématique directeur artistique de Chanel pendant 35 ans. Karl Lagerfeld est mort hier à l'âge de 85 ans, âge officiel, puisque c'est l'un des mystères qui entourait le créateur, celui que l'on surnommait le Kaiser en référence à ses origines allemandes, se surnommait également Logofeld. Il se disait une marque ambulante, qu'il travaille dans la mode, le design, la décoration ou la photo. Karl Lagerfeld savait relever et faire briller des marques dans le monde entier, Cécile de Kervas-Douai.
Il y a d'abord eu Fendi, où Karl Lagerfeld, entré en 1965, a non seulement développé le prêt-à-porter, mais aussi créé un logo aux deux F renversés. Puis en 1982, il rentre chez Chanel, revisite la robe noire ou la marinière et crée également un logo aux deux C croisés qui va faire le tour de la planète, s'adaptant à une foultitude d'objets. Dès 1984, le couturier crée sa propre marque, Karl Lagerfeld, qu'il déclinera sous toutes ses formes. La mode, les accessoires et les costumes d'un côté, mais aussi la photo, les livres, les parfums, la musique, les meubles, puis les journaux, le cinéma ou l'architecture intérieure. De quoi amasser une fortune et être rattrapé par le fisc en 1999. Pour payer son redressement fiscal, Karl Lagerfeld vend sa collection d'œuvres d'art et sa propriété dans le Morbihan. Et puis surtout, il vend son image dans des publicités pour des voitures ou pour la sécurité routière. Et il devient ainsi, lui-même, un produit. Depuis près de 15 ans, Karl Lagerfeld enchaînait donc les partenariats avec de multiples grandes marques. Sa collection de prêt-à-porter pour H&M avait fait mouche, comme ses lunettes pour Optique 2000 ou ses vêtements pour les poupées Barbie. Il était passé un cran au-dessus avec sa version de la bouteille de Coca-Cola dessinée à sa propre effigie ou en prêtant carrément son image à Bob l'éponge. Il était même allé jusqu'à vendre l'image de sa chatte Choupette à travers le monde, affichée à la une de magazines, dans des produits dérivés et même sur un livre consacré à sa vie de chat fashion et publié chez Flammarion. Un goût prononcé pour le marketing donc, à moins que ce soit un vrai talent pour l'autodérision.
Et Inès de la Fressange, premier mannequin signé en exclusivité en France quand Karl Lagerfeld avait pris les rênes de Chanel en 83. Inès de la Fressange salue celui qui a inventé le marketing des griffes du luxe qui participe toutes aujourd'hui au rayonnement de la France. Et c'est Virginie Viard qui doit faire vivre désormais l'héritage de Karl Lagerfeld chez Chanel. Elle revient une fois de plus à Bruxelles en quête d'une nouvelle version de l'accord sur le Brexit. La première ministre britannique Theresa May devrait de nouveau se heurter ce soir à des Européens inflexibles. Nous aurons une discussion amicale, mais je n'attends pas de percée, a déjà prévenu le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Theresa May affaiblie également sur le plan économique. Le constructeur automobile Honda a annoncé hier la fermeture de son usine de Swindon. 3500 suppressions d'emplois à la clé dans cette ville du sud-ouest de l'Angleterre. Et à 37 jours de la date butoir pour le Brexit, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon était de passage hier à Paris pour inaugurer une première représentation du gouvernement écossais dans la capitale française pour plaider aussi auprès des parlementaires français la cause de l'Écosse à l'heure du Brexit. Éric Biegala.
C'est devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale que Nicola Sturgeon a hier soir rapidement brossé une sorte de tableau de situation, celui de l'Écosse à l'heure du Brexit. On le sait, les Écossais, comme les Nord-Irlandais d'ailleurs, deux des quatre nations du Royaume-Uni, ont voté très majoritairement contre le Brexit en 2016. Aujourd'hui, rappelle la patronne de l'exécutif écossais, l'accord de sortie de l'Union, négocié par Theresa May et l'UE, est tout simplement inacceptable en l'état. Il ne sera donc jamais ratifié à son avis.
Je comprends bien que l'Union européenne pense que l'accord négocié en novembre est le meilleur possible. Mais je veux dire qu'aucun gouvernement écossais ne pourrait soutenir l'accord actuel.
La première ministre écossaise a donc plaidé hier devant les parlementaires français pour une extension de la période de négociation.
La première ministre britannique devrait écrire immédiatement à l'Union européenne pour solliciter une prolongation de la procédure prévu par l'article 50. Il semble évident depuis un moment maintenant que le Royaume-Uni est loin d'être prêt à quitter l'Union européenne le 29 mars. Et j'espère très sincèrement que la France appuiera une telle extension de l'article 50.
L'article 50 du traité de l'Union, qui régule les éventuelles sorties de l'Europe, permet en effet d'étendre la procédure au-delà de 2 ans. Mais il faudrait pour cela que tous les autres pays de l'Union, c'est-à-dire les 27, y souscrivent. Difficile de l'imaginer dans un laps de temps aussi court.
Il avait perdu les primaires démocrates de 2016 aux États-Unis face à Hillary Clinton. Le sénateur indépendant Bernie Sanders s'est relancé hier dans la course à la Maison-Blanche avec en ligne de mire Donald Trump pour 2020. À suivre dans le journal de 7h30, une mission impossible au MEDEF. Patronat et syndicats vont tenter une nouvelle fois, une ultime fois aujourd'hui, de rapprocher leurs vues sur la réforme de l'assurance chômage. Le temps de ce mercredi 20 février, nuageux au nord, ensoleillé au sud. Les températures sont en hausse, comprises au meilleur de la journée, entre 10 et 14 degrés au nord de la Seine, 13 à 18, plus au sud, jusqu'à 20 en Aquitaine.